D'après l'enquête internationale PISA réalisée en 2015, un quart des élèves français est en difficulté. Et cela concernerait 40% des élèves issus de milieux défavorisés.
Extrait d'un épisode de Décode Actu produit par France Télévisions en 2018, le titre « Échec scolaire, est-ce la faute de l'école ?». Par échec scolaire, on comprend un retard dans la scolarité, une expression qui semble entériner l'avenir de l'élève et à laquelle nous préférons celle d'inégalité de réussite. Un phénomène qui se mesure à travers des évaluations standardisées qui jalonnent la scolarité. Fin 2019, nous découvrirons les résultats du dernier programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA. Les derniers chiffres datent de 2016 et en tête du classement, on retrouve Singapour, le Japon, l'Estonie, Taipei et la Finlande. La France arrive, elle, en 27e position, une performance stable, à défaut d'être satisfaisante. Parmi les statistiques, retenons celle-ci. 22% des élèves français de 15 ans sont en difficulté, un chiffre en légère augmentation et c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Pourtant, des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté existent. Depuis le bien connu redoublement qu'on retrouve dès le 19e siècle et supprimé en 2015 par la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu les zones d'éducation prioritaire, aujourd'hui nommées réseau d'éducation prioritaire. Également le dispositif plus de maîtres que de classes depuis 2013. Là, c'est une question de moyens supplémentaires. Mais les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté se manifestent également par de la différenciation dans les pratiques de l'enseignant. Proposer des contenus ou méthodes alternatives pour atteindre les mêmes objectifs d'apprentissage. Le constat, lui, il est décevant. Les élèves qui fréquentent ces dispositifs d'aide progressent moins que ceux qui ne le fréquentent pas. Pourquoi ces effets négatifs? Qu'est-ce qui empêche l'école de briser les effets de reproduction sociale et qui au contraire la renforce? Notre invité réaffirme le pouvoir de l'enseignant dans un contexte contraint par le temps, les moyens et les effectifs de classe, tout en refusant l'existence de pratiques à succès. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Céline Piquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université à Rennes 2 et rattachée au centre de recherche sur l'enseignement, les apprentissages et la didactique. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Céline Piquet, vous êtes une spécialiste des inégalités de réussite à l'école. Mais quelle réalité recouvre ces notions d'échec et de réussite scolaire et comment les mesure-t-on?
Alors, cette question est un petit peu difficile sans doute comme introduction. Généralement, quand on est chercheur, cette notion d'échec scolaire est pour nous pas très opérationnelle. En fait, c'est un terme qui est utilisé dans le langage courant, ordinaire. Et c'est pourquoi nous, on lui préfère, en sociologie de l'éducation souvent, le terme d'inégalité de réussite. Puisqu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les écarts entre élèves, c'est-à-dire comprendre pourquoi tous les élèves ne réussissent pas de la même manière, pourquoi il y a des différences dans les acquisitions des élèves. Alors que le terme d'échec scolaire, ça renvoie à quelque chose d'un peu définitif, finalement. Et lutter contre l'échec scolaire, c'est comme si c'était un peu trop tard. Bon. Et puis, c'est assez subjectif. On n'a pas vraiment de définition de ce qu'est l'échec scolaire, de comment on pourrait le mesurer. Bon. Donc, nous, on préfère travailler en sociologie de l'éducation sur la question des inégalités de réussite, peut-être aussi parce que c'est plus facile à objectiver et à mesurer à travers un certain nombre d'indicateurs dont on pourrait discuter d'ailleurs.
Alors bah justement, on pourrait peut-être en discuter. Alors on voit bien que derrière l'idée de réussite, il y a l'idée de performance, de perception subjective, de voilà, un élève qui se pense, ou ses parents qui le pensent comme réussissant, et au contraire l'échec comme une espèce de stigmate. Donc on est plus dans la perception subjective, alors que parler de performance, c'est renvoyer à des résultats objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les notes, on regarde la capacité, les fameux tests PISA, les choses comme ça.
Alors, on peut avoir différents indicateurs. Le terme de performance peut être un peu connoté, mal apprécié de temps en temps. Moi, je lui préfère celui d'acquisition, Voilà. Alors, on peut mesurer, entre guillemets, les acquisitions de différentes manières. La plus immédiate, dans le contexte scolaire, en classe, les enseignants mesurent les acquisitions des élèves à travers les évaluations qu'ils leur proposent et puis les notes qu'ils leur attribuent. Encore que à l'école primaire, on a aussi beaucoup d'enseignants qui ne mettent plus de notes, donc on n'est plus vraiment dans une question de mesure. Alors, les notes des élèves, ce ne sont pas vraiment... c'est pas la manière privilégiée en recherche de mesurer les acquisitions des élèves. On va, notamment parce que c'est subjectif et que les notes sont attribuées par les enseignants et que, en fonction d'un certain nombre de valeurs, de représentations, on va avoir des notes différentes pour un même niveau d'acquisition. On peut être plus ou moins exigeant. Bon. Et puis tout un ensemble de biais, mais ça serait un autre sujet vraiment centré sur les notes. Donc nous, on préfère généralement, dans nos travaux de recherche, construire ce qu'on appelle des évaluations standardisées, un petit peu comme fait le ministère avec le service de l'ADEP, c'est-à-dire qu'on va construire des épreuves qui sont fondées sur les programmes scolaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu à la fin du cours préparatoire, par exemple, pour des élèves de CP. Et dans nos travaux, les épreuves qu'on va administrer aux élèves sont donc toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un échantillon d'élèves, de préférence assez large, mais tous les élèves auront passé la même épreuve. Et c'est avec des consignes de passation précises, un temps indiqué et des consignes de correction qui sont identiques également pour tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mesurer, je mets toujours ça entre guillemets, des écarts entre élèves, mais sur une même base. Alors que si on était sur les évaluations et les notes des enseignants, ben on n'a pas du tout la même base, notamment en termes de contenu, déjà.
Voilà. Donc, cette posture est exactement celle du ministère, comme vous le disiez tout à l'heure, qui plaide pour des évaluations quasiment d'une... Enfin, corrigez-moi, mais d'une classe d'âge tout entière à plusieurs moments de la scolarité. Je crois que c'est la sortie de CP ou l'entrée en sixième.
Ça, c'est des données que vous utilisez. Alors moi, je ne les utilise pas directement, mais oui, on peut s'en servir. Les chercheurs peuvent avoir accès à un certain nombre de résultats produits par l'ADEP, donc le service statistique, pour faire simple, du ministère. Mais on peut aussi construire des épreuves ad hoc. C'est souvent ce qu'on fait, parce que le choix des épreuves qu'on va mettre dans nos évaluations, comme tout choix, n'est pas toujours neutre. Donc le fait d'utiliser les épreuves du ministère et régulièrement les mêmes, ça permet des comparaisons temporelles qui sont intéressantes. Mais là, ces dernières semaines ou ces dernières années, on a aussi des critiques sur les contenus de ces évaluations de l'ADEP. Donc, selon les chercheurs, on va choisir tantôt de se fonder sur ces épreuves-là, tantôt de construire les nôtres. L'idée, c'est quand même, le plus possible, d'avoir des épreuves, évidemment, en cohérence avec les programmes scolaires. On ne va pas évaluer en début de CP des enfants, des élèves, sur des exigences qui sont de la petite section de maternelle ou du CE2. Donc, on essaye de se contenir dans ce schéma-là.
Est-ce que c'est en fonction de ces épreuves, de ces exercices, que on obtient des résultats qui sont assez déprimants, il faut bien le dire, et qui sont assez visiblement constants? En France, on estime qu'à l'entrée en sixième, 15% des élèves réussissent moins de la moitié des épreuves de français et 20% des élèves moins de la moitié des exercices de mathématiques. Et ces chiffres semblent constants, mais peut-être vous. Et pourtant, depuis des décennies, il y a eu une flopée de dispositifs. Si on remonte à des temps plus anciens, la notion de redoublement. Et puis ensuite, il y a eu la création des RASED, ces réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Après, il y a eu la mise en place des ZEP et des REP, ces zones et réseaux d'éducation prioritaire, etc. On reviendra sur peut-être tout à l'heure sur ce que propose le ministre Blanquer pour les mois à venir. il y a une préoccupation et du ministère et des enseignants et des parents, etc., etc. Et bon sang, ça les résultats, ils sont... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tous ces dispositifs?
Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments dans votre question. Donc, pour rester sur le point de méthode au départ, oui, dans les travaux qui évaluent, enfin, ou qui cherchent à mesurer les effets de ce qu'on appelle les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté, ou de l'aide en général, on se fonde très souvent sur des épreuves standardisées. Et donc, on arrive effectivement à... Alors, à différents niveaux hein, de la scolarité, que ce soit chez les petits, en sixième, comme vous l'avez cité, mais quand on regarde aussi les épreuves, enfin, les tests hein, qui sont conduits dans le cadre des JDC.
JDC,
voilà, rappelez. Les journées défense et citoyenneté, donc tous les jeunes, à partir de 18 ans, je pense, doivent... on fait passer quelques épreuves de la même façon, hein, standardisées, tout le monde passe les mêmes épreuves et on aboutit à peu près les mêmes statistiques. Donc qui sont un peu déprimantes, hein, effectivement, on est toujours autour de 15% voilà, de jeunes, plus jeunes, en difficulté.
Pour lire.
Alors pour lire essentiellement, hein, oui. Alors après il y a des questions de définition de seuil. On n'a pas 15% d'illettrisme, par exemple. Hein. Mais disons qu'on a une fourchette un peu large de 15% en difficulté, et puis, selon les années, 7-8% vraiment en grande difficulté. C'est-à-dire que le déchiffrage, même pour des jeunes adultes, hein, le déchiffrage est acquis, mais il y a des problèmes de compréhension assez importants. Donc on a voilà, ce 15% là qui nous agace quand même depuis des années, des années, des années. On a même quelques résultats qui ont tendance à nous dire que ça empire en quelque sorte. Bon, mais disons 15%. Donc c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, alors ça a commencé essentiellement dans les années 70 hein, avec... la massification du système, tous les élèves vont à l'école, tous les élèves vont au collège, tous les élèves vont au lycée quasiment. La société a pris conscience de ces difficultés et donc il y a une forme d'urgence enfin, qui dure depuis 40 ans en fait, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Donc pour les parents, pour les élèves, pour le système, pour les enseignants, à essayer de trouver des solutions pour ces élèves. Et le bilan qu'on peut en faire est effectivement est effectivement décevant. Alors, je voudrais éviter les discours un peu globaux parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de dispositifs. Donc, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'évaluations, mais chaque dispositif est lui-même peu évalué. Voire certains n'ont jamais été évalués. Donc c'est finalement une somme d'évaluations de dispositifs assez différents, enfin assez différents, quand même des principes un peu communs, mais c'est cette somme des évaluations qui nous autorise à conclure que quand même, le plus souvent, on va avoir des effets qu'on appelle négatifs, mais je préciserai...
Voire pervers, on y reviendra.
Et pervers, mais pervers, c'est les interprétations. Mmh. Mais à court terme, c'est négatif. Mais il faut préciser ce qu'on entend par effet négatif.
Christine. Alors, la philosophie de ces dispositifs, c'est quand même un peu toujours la même, c'est-à-dire donner davantage de moyens à l'école pour pouvoir accompagner les enfants. Et quand on dit davantage de moyens, ça veut dire une attention accrue à chaque élève... par opposition voilà, au modèle classique de l'école à la Pagnole où le prof dit son cours tout seul. Non, vous tiquez, c'est pas la philosophie qui inspire ces... Parce que ma question c'était, est-ce qu'il y a consensus est-ce que c'est qu'un problème de moyens, c'est-à-dire qu'il faut davantage d'enseignants, il faut moins d'élèves par classe, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment une réflexion sur à moyen égal comment...
Alors, il y a deux. Pour moi, il y aurait deux principes. Il y a effectivement ce principe des moyens supplémentaires. Depuis le début des années 80, la mesure phare, c'est la création des zones d'éducation prioritaire, donner plus à ceux qui ont le moins.
Les experts mettent en cause les zones d'éducation prioritaire créées en 1981 par Alain Savary, et appelé depuis 2014 réseau d'éducation prioritaire. À l'origine considérées comme temporaires, elles sont devenues permanentes. Elles regroupent des écoles stigmatisées avec deux fois plus de professeurs peu expérimentés et un niveau général inférieur à la moyenne nationale. Certains élèves en réussite qui dépendent de ces établissements sont inscrits par leurs parents dans d'autres écoles. Loin de réduire les inégalités sociales comme c'était l'objectif, les écoles situées en zone prioritaire parviennent difficilement à lutter contre l'échec scolaire.
Extrait d'un épisode de Décode Actu, série de vulgarisation pour le jeune public, produite par France Télévisions en 2018. Le titre « Échec scolaire, est-ce la faute de l'école ?»
Donc il y a effectivement une logique d'accroître les moyens, une partie, mais il y a aussi une autre logique qui est celle de la différenciation.
Donc, ça va ensemble, non ?
Pas forcément. Non, pas forcément. On peut différencier sans forcément avoir plus de moyens financiers. La différenciation ordinaire dans la classe, c'est un concept qui est un peu plus récent que les ZEP. Ça a commencé à pointer son nez dans les années 80, mais ça s'est plus installé à partir des années 90, cette idée de différencier, c'est-à-dire réussir à ne pas proposer exactement toujours la même chose à tout le monde. Alors évidemment, on peut avoir des moyens supplémentaires, on va proposer un dispositif particulier à certains élèves. Mais dans le contexte ordinaire de la classe, il n'y a pas forcément cette question des moyens. On peut proposer, adapter un certain nombre de façons de faire de l'enseignant en fonction de tel ou tel élève. Alors le problème, c'est le chaque élève. On a tendance à penser qu'un enseignant est capable de proposer des choses différentes à chacun de ses élèves. Non, évidemment. On a quand même. Et puis, c'est peut-être pas forcément très souhaitable. Il y a une dimension collective dans une classe. On est ensemble, on apprend ensemble la même chose tous. Donc, la différenciation, c'est plutôt comment trouver. Je parle de la différenciation ordinaire en classe. Comment trouver des petites astuces, plus sur les moyens que sur les contenus, pour aider tous les enfants à acquérir ce qui est au programme. Et ce qui est au programme, c'est la même chose pour tout le monde.
Puisque vous parlez de la différenciation, on va y rester encore un petit peu. Quels sont les... J'aimerais bien que vous donniez des exemples concrets. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on parle de différenciation pour les élèves et pour le maître ou le... ou la maîtresse?
Alors, c'est toujours un peu la même difficulté. On a des concepts, et puis derrière, qu'est-ce qu'on met dedans, hein, où on met en place des dispositifs, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la différenciation, pour faire un petit peu schématique, souvent, on va distinguer une différenciation des moyens et une différenciation des contenus. Bon. Moi, j'ai plutôt tendance à tenir le discours attention à la différenciation des contenus. Les programmes, je viens de le dire, sont les mêmes pour tout le monde. Bon. Et quand on différencie trop les contenus, là on rentre dans des logiques d'effets pervers, dont on pourra reparler tout à l'heure, et notamment de réduction des exigences à l'égard de certains élèves. Donc la différenciation, elle va plutôt passer, l'objectif c'est plutôt de différencier les moyens, les façons de faire, pour aboutir au même contenu. Alors, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par une construction de séquences qui va être un petit peu différente. Je pense par exemple à un guidage où, pour certains élèves, qui va être plus détaillé. On peut imaginer des consignes par exemple, avec, pour certains élèves qui vont avoir une compréhension assez immédiate de la consigne, ils ont une consigne simple et puis ils se débrouillent, ils trouvent tout seuls les stratégies, alors que d'autres on va les aider et on va donc décortiquer la consigne en étapes. Ça peut passer par des aides méthodologiques. Dans certains cas, toi tu as accès au dictionnaire et puis pas toi.
La manipulation pour la soustraction.
Les bandes numériques. Ça peut. Et puis plein de petites choses. En fait, ce terme de différenciation, c'est un peu un gloubi-boulga où chaque enseignant. Enfin, les enseignants vont avoir une définition parfois un peu différente. Je t'aide pas. Et les aides, ça peut être très divers. Ne serait-ce que d'aider à un niveau matériel. Bon, ben, certains élèves, on ne va pas les aider à tracer un trait, à coller une feuille. Bon. Alors que d'autres, on va justement les aider parce qu'on sait qu'ils vont mettre 3 heures à coller leur feuille dans leur cahier. Bon, voilà, donc c'est aussi des attentions, finalement, qui sont différentes selon les besoins des élèves.
Mais tout ça, c'est fait par le maître ou la maîtresse. Il n'y a pas d'intervenant extérieur.
Alors, il peut. Ça peut.
Et alors, qui sont ces intervenants et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors là, c'est, vous faites référence peut-être au dispositif plus de maîtres que de classe,
par exemple.
Ben là, c'est pareil. C'est un dispositif. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des façons assez différentes d'organiser ce dispositif plus de maîtres que de classe. Même si on admet que, je prends un exemple, hein, mais que ben, on met le paquet sur le cours préparatoire et que finalement on va avoir 2 enseignants dans une classe de cours préparatoire, les façons de s'organiser peuvent être très différentes. Vous pouvez avoir 2 enseignants qui sont ensemble, voilà, et qui conduisent le cours ensemble. Vous pouvez avoir un enseignant qui va prendre une partie de la classe et puis l'autre enseignant va prendre une autre partie. Ou certains qui se réservent les élèves dits en difficulté et l'autre reste avec le collectif. Donc, tout ça participe à de la différenciation. C'est un mot qui finalement, dans l'ensemble des pratiques, n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais c'est inviter les enseignants toujours à s'adapter aux situations en fonction des ressources dont ils disposent. Voilà, et de sortir du schéma classique dont on parlait tout à l'heure à Pagnol. Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont inscrits maintenant dans ce registre.
Alors, ce registre, il a pour lui, effectivement, il paraît assez solide, il paraît être de bon sens, et en même temps, c'est là où le travail des sciences sociales est intéressant, vous montrez que parfois il y a des effets, alors, pervers, je ne sais pas, mais en tout cas négatifs, vous pouvez donner des exemples de bonnes intentions qui peuvent ne pas produire les effets attendus, avec y compris des mobilisations de moyens qui paraissent importantes.
Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur le terme d'effet négatif, parce que je trouve que c'est quand même un peu violent.
Pas d'effet, ou inefficace, disons.
Non, il peut y avoir ce que nous, les chercheurs, on va appeler des effets négatifs, mais pour les enseignants, on pourrait avoir l'impression que, effet négatif, alors les élèves régressent. C'est pas du tout le sens de cette expression. Donc, les chercheurs, quand ils parlent d'effet négatif, La formule qui se cache derrière, qui n'est pas sans poser question d'ailleurs, c'est parce qu'on a mesuré, enfin, ou évalué, que toute chose égale par ailleurs, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire pour des élèves comparables, on va constater que certains élèves, ou en moyenne, les élèves qui ont fréquenté tel dispositif, qui ont été soumis à telle pratique pédagogique, progressent moins que des élèves qui n'ont pas fréquenté le dispositif. Bon. Donc c'est bien « progressent moins ». Les élèves ne régressent pas, ils ne désapprennent pas. Voilà, ils progressent moins vite, ils apprennent moins de choses que des élèves qui leur sont comparables, alors en termes de milieu social, de sexe, d'âge et surtout de niveau scolaire, qui n'ont pas fréquenté ces dispositifs.
Ça veut quand même dire que le dispositif, est, en termes d'action publique, est inefficace.
On est bien d'accord. Hein, mais j'ai souvent été confrontée à ça. En fait, les collègues ou les enseignants sont un peu surpris quand on parle d'effets négatifs. Quand on ne connaît pas les travaux, on a l'impression que les élèves régressent. Alors, ce n'est pas du tout ça. Hein. Les élèves apprennent.
Donnez plusieurs exemples. Dans vos travaux, vous en citez...
On a des exemples. Alors, ça dépend si on parle des effets des dispositifs qu'on met en place pour des élèves ou si on parle des effets des pratiques enseignantes ordinaires, même si ça se recoupe parfois. Alors, celui qui va me venir à l'esprit le plus rapidement, c'est tout ce qui concerne les niveaux d'exigence des enseignants, ce qu'on peut appeler aussi les effets Pygmalion, ou moi je préfère le terme d'effet d'attente. Mais souvent... Et on le comprend, hein, quand on va observer dans des classes, on peut, en tant qu'enseignant, parfois être un petit peu démuni à l'égard de nos élèves en difficulté. Bon. Et on va avoir tendance à réduire les exigences qu'on a à leur égard. Sous un prétexte plutôt bienveillant au départ, en se disant « bon, chaque chose en son temps, on ne va pas aller trop vite bon. ». Or, quand on est dans ce genre de précaution, finalement, on se rend compte, on peut se rendre compte, que dans certains cas, on va verser vers des objectifs, par exemple, davantage de socialisation, que des objectifs d'apprentissage. C'est comme s'il y avait un ordre, un préalable. Avec des élèves en difficulté, on va se dire « ou déjà, essayons de rétablir l'estime de soi, le plaisir de venir à l'école, avant de s'attaquer à des dimensions sur l'apprentissage de la lecture. » Et le problème, c'est que ces objectifs de socialisation ne sont pas forcément un préalable aux objectifs d'apprentissage. En fait, généralement, ils vont ensemble. Si un élève apprend à lire, alors il reprend confiance en soi, alors il a plaisir à venir à l'école, et donc il se mettra plus facilement dans les activités scolaires. Donc, voilà, un exemple typique
des
faits pervers.
De quel niveau vous parlez, là, parce que...
Alors, je parle des petits, moi, souvent. Ouais. Oui. Mes travaux portent beaucoup, oui, on fait bien parce de préciser. Mes travaux portent beaucoup sur l'école primaire, en particulier le cours préparatoire.
Mais on peut quand même aussi défendre la thèse, parce que c'est très passionnant ce sujet, que l'estime de soi, le plaisir d'aller à l'école, etc., conditionne, alors pour les petits, la réussite.
Je ne dis pas que ce n'est pas lié.
Que la socialisation est un préalable à l'apprentissage.
Non, moi ce que je questionne, c'est cette question c'est ce terme de préalable. C'est-à-dire qu'on fait comme si la relation était en fait linéaire, alors qu'elle est circulaire. Et renoncer, même temporairement, à des objectifs d'apprentissage pour se centrer sur des objectifs de socialisation, finalement, peut produire ces effets pervers où on stagne. Parce que, comme
l'enfant est très content d'aller à l'école, il est très
encore,
bien, mais il apprend
pas,
rien.
Même pas vraiment, parce qu'on n'est même pas certain d'atteindre ses objectifs de socialisation, puisque l'enfant, il se sent toujours en difficulté, il n'a toujours pas appris à lire. On caricature un peu, hein, là, quand même, dans les propos, mais c'est pour essayer de faire simple. Mais tant qu'il n'a pas appris à lire et qu'il va se comparer aux autres, qui, eux, continuent à apprendre, alors que lui, on attend qu'il soit content d'arriver à l'école, bon, il y a des formes de découragement aussi pour les élèves. Donc voilà, typiquement, un effet pervers, c'est celui-là. Alors qu'on sent bien que c'est quelque chose de bienveillant pour les enseignants. C'est d'aller doucement, de pas charger la barque aussi, parce que les élèves, quand ils sont en difficulté, c'est pas non plus une partie de plaisir d'aller à l'école. Et puis, ils fatiguent. Et, bon, donc et on sent des enseignants qui cherchent un peu à les protéger.
On fait une pause musicale. Ce sont les Américains de Grizzly Bear qui nous interprètent « And I was a boy from school ».
And I was a boy from school, all the rules, and there was a boy at school, hopelessly dressed in all his fools, and there was a girl at school, blaming all the words she learns from. Nothing could keep her a child. Long hours, don't you know, we didn't have
try, but we don't belong. Now I met you on the street, heartlessly breaking rules we believe. Lives are found in love's a
C'était Grizzly Bear avec le titre « And I was a boy from school », une reprise de Hot Chip. Vous écoutez Canal B et aujourd'hui dans Chercheurs en ville, votre émission consacrée à la recherche scientifique, nous recevons Céline Piquet. Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2 et rattachée au Centre de recherche sur l'enseignement, les apprentissages et la didactique. En première partie d'émission, il s'agissait de définir l'échec scolaire, ou plutôt les inégalités de réussite, et de comprendre comment elles se mesurent. Avant de dresser le constat suivant, les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté ne remplissent pas leurs objectifs. À présent, tentative d'explication des effets négatifs de ces dispositifs d'aide à l'école, avant de réaffirmer le pouvoir de l'enseignant souvent traversé de doutes, dans une école française qui tente à renforcer les inégalités sociales.
Céline Piquet, on reprend sur cette interprétation des effets plus ou moins négatifs et plus ou moins inattendus des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté. Donnez d'autres exemples, s'il vous plaît.
Alors, on vient de parler de la difficulté à maintenir des attentes élevées à l'égard des élèves en difficulté. Donc ça, c'est un premier point qui explique un certain nombre d'effets négatifs des dispositifs. Un deuxième point est plutôt lié à la question du temps d'apprentissage. Alors là, il y a peut-être deux aspects. Le premier, c'est que parfois, quand on met en place des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté, ça revient à concurrencer finalement les activités de la classe. C'est-à-dire que pour des questions d'organisation, il est difficile de proposer aux élèves des dispositifs en plus d'eux. Un orthophoniste ne peut pas recevoir tous les élèves le mercredi après-midi. Voilà. Donc, parfois, on voit des élèves qui quittent la classe pour aller faire une séance chez l'orthophoniste. On a la même chose avec certaines modalités d'intervention des RASED, donc les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, qui ont fait des efforts, hein, les intervenants des RASED, pour intervenir de manière conjointe dans les classes. Mais parfois, c'est pas possible. On revient à la question des moyens, d'ailleurs, parce que souvent, les intervenants des RASED accueillent plusieurs élèves en même temps, parfois de différentes classes, donc eux, en tant qu'intervenants, ne se coupent pas, et c'est plutôt les élèves qui rejoignent, l'intervenant et qui donc sortent de la classe. Donc on se retrouve avec des concurrences, où finalement les élèves qui sortent de la classe perdent ce qui se fait en classe. Pour l'enseignant, parfois, l'enseignant titulaire de la classe, c'est parfois possible de rattraper, mais pas toujours. Donc là, on a une concurrence dans les temps. Et puis, il y a aussi la question du volume, c'est-à-dire de combien d'heures en plus auraient besoin les élèves en difficulté pour rattraper un niveau considéré comme ordinaire, normal. Et là, en France, on a très peu de travaux qui permettent vraiment de mesurer le temps qu'on offre, de quantifier le temps qu'on offre en plus à ces élèves en difficulté. Les quelques travaux qui sont sortis récemment qui estiment que pour les 15% les plus faibles, au cours préparatoire par exemple, la moitié d'entre eux reçoivent 15 heures d'aide à l'année. Alors, je vais provoquer un peu, ça fait en moyenne un quart d'heure par semaine. Bon, donc posé comme ça, on a le sentiment que ça fait pas beaucoup, même si sont 15 heures intensives, bon, ce qui dans les faits n'est pas tout à fait le cas. Voilà, on a des travaux aux États-Unis qui estiment que 20-30 heures seraient nécessaires et de manière très concentrée. Or, c'est pas tout à fait l'organisation qu'on a en France actuellement, où on est plutôt sur des organisations hebdomadaires, un petit peu toutes les semaines. Bon, donc ça se dilue. Donc on a cet aspect du temps qui est quand même problématique et qui en partie explique les effets négatifs. Mais d'une manière générale, sur les élèves en difficulté, la question du temps est fondamentale. Le temps d'implication dans la tâche, dans les activités, explique aussi la difficulté qu'on a à les aider. J'ai pour habitude de dire à mes étudiants que les élèves en difficulté n'en sont pas moins tout à fait intelligents. Et que face à une difficulté, leur premier réflexe, c'est de se sauver en courant. Et alors, ils sont très imaginatifs pour échapper aux tâches scolaires.
Les stratégies d'évitement.
Ah oui, bon, nous les adultes, on a les mêmes. Mais quand on observe, moi j'engage beaucoup mes étudiants à aller observer comment se comportent des élèves en difficulté en classe. On peut faire une liste à la Prévert de toutes les stratégies qu'ils vont utiliser. Alors j'ai chaud, donc j'enlève mon pull. J'ai froid, je le remets. Ah puis j'ai soif, alors je vais boire, je vais aller boire. Bah oui, mais comme j'ai bu, il faut que j'aille faire pipi maintenant. Bon, alors je me mets à ma table. Ah bah oui, mais mon crayon est mal taillé. Alors là, bon, ils peuvent être très minutieux sur la taille du crayon. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et puis je reviens, et puis oh tiens, qu'est-ce qui se passe par la fenêtre? Ah puis tiens, ça fait un moment que j'ai pas parlé à mon voisin. Enfin, et ça peut durer. Et quand on parlait de différenciation tout à l'heure, ou d'attention aux élèves en difficulté, les enseignants, souvent, ont besoin d'être derrière, en fait, tout le temps. Alors quand on en a un ou deux dans la classe, ça va, mais quand ils sont 15 et qu'il faut systématiquement les remettre au travail, ça fait partie d'une vraie compétence des enseignants.
Dans vos travaux, et là vous venez de le dire aussi, c'est particulièrement pris en primaire le rôle essentiel du maître et de la maîtresse. Vous dites à un moment que, en fonction de tel ou tel prof, les élèves connaîtront une scolarité différente.
Oui. Alors c'est un petit peu dur de le dire comme ça. Tel enseignant ne détermine pas complètement la trajectoire scolaire des élèves qu'il voit passer dans sa classe. Il y a des phénomènes de compensation. À l'école primaire, on change d'enseignant tous les ans. Mais effectivement, il y a une vraie responsabilité. Alors, on peut dire responsabilité, moi je préfère le terme de pouvoir, je trouve que c'est un petit peu moins culpabilisant, mais il y a un vrai pouvoir des enseignants, dont parfois on peut douter. En fait, les enseignants eux-mêmes doutent. On va se dire, mais non, mais j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Ou des discours du genre, bah oui, mais bon, sa famille, les problématiques sociales derrière, c'est compliqué. Donc parfois, les enseignants souffrent de ce sentiment, enfin, de se sentir un peu démunis. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Or, c'est pas vrai du tout. Quand on regarde les travaux en éducation, on se rend compte que, au-delà de ce qui se passe et sur lesquels les événements de la vie des élèves dont on n'a pas prise, on ne va pas leur demander de changer de parents ou de régler leurs difficultés sociales. Ou bon, parmi les éléments sur lesquels on a prise, en tant qu'institution scolaire, politique, bon, c'est l'enseignant qui compte le plus. Les CPA12, par exemple, donc, c'est une des dernières réformes. Il y a eu déjà beaucoup d'expérimentations hein, sur les classes à effectifs réduits. C'est une mesure d'organisation scolaire. Bon, voilà, on définit le cadre. Mais la vraie question, et ce qui va faire la différence, c'est comment les enseignants s'en emparent. Donc... là, les travaux de recherche sont quand même assez d'accord les uns avec les autres pour dire que l'aide aux élèves en difficulté, c'est d'abord l'enseignant. Et c'est lui qui a le plus de pouvoir par rapport à tous les dispositifs qu'on pourrait imaginer. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place de dispositifs, mais ça veut dire que l'enseignant a du pouvoir.
Alors, c'est assez fascinant quand on regarde un peu l'histoire de la sociologie de l'école. Dans les années 60, 70, en particulier du fait des travaux de Bourdieu et Passeron et bien d'autres, donc ce qui expliquait la réussite, c'était le milieu social de l'élève. Hein, il y avait la bourgeoisie et ses enfants, il y avait les milieux populaires et leurs enfants, etc. Et donc, cette espèce de rouleau compresseur explicatif écrasait tout. Et à mesure que les années passent, à mesure aussi que la référence aux classes sociales est de moins en moins présente dans l'espace public, et y compris dans le monde savant, on a de plus en plus une attention portée à des variables, j'allais dire, qui se rapprochent de plus en plus, c'est pas forcément une bonne nouvelle, des préoccupations des parents d'élèves, c'est-à-dire l'établissement, hein, le bon établissement, et pire que ça, dans la classe, est-ce qu'il va avoir Madame Truc l'année prochaine ?
Le bon maître,
avec un espèce de marché noir de l'information qui participe aussi des évolutions néolibérales de l'école assez effrayantes. Alors, ce que vous dites n'affirme pas cette lecture-là. Donc.
Non, pas du tout, mais il ne faut pas oublier néanmoins que les inégalités sociales et que les mécanismes décrits depuis 50, 60 ans sont toujours présents. Ce n'est pas parce qu'on ouvre d'autres boîtes noires, qu'on décortique d'autres processus, que ça doit faire oublier qu'il y a, oui, effectivement, mais avant même l'entrée à l'école, des inégalités sociales qui sont là, qui ne disparaissent pas, et que l'école a quand même grand peine à éliminer. Bon, on a quand même beaucoup de sociologues qui ont plutôt tendance même à dire que l'école les amplifie. Si à minima on arrivait à les contenir, on serait content. Les réduire, ça serait quand même l'objectif. Mais en fait, le rouleau compresseur, là, c'est aussi l'école. Hein. C'est pas que le milieu social. C'est comment l'école, finalement, entérine et légitime, quelque part, des différences sociales en différences scolaires.
Dans une étude publiée en 2016, le Conseil national d'évaluation du système scolaire dressait un bilan désastreux de l'école française, considérée comme la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. La réussite ou l'échec reste donc fortement influencée par la situation familiale et le niveau de diplôme des parents de l'élève.
Vous venez d'entendre un autre extrait de cet épisode de Décode Actu, série de vulgarisation pour le jeune public, produite par France Télévisions, c'était en 2018. Le titre « Échec scolaire, est-ce la faute de l'école ?»
Mais ça veut donc dire que quand Le Point ou L'Express publient la liste des lycées d'excellence, etc., autant de ces pratiques assez répugnantes, ça veut dire que d'une certaine façon, c'est sociologiquement pas complètement infondée, on va le dire comme ça. C'est probablement un peu aveugle et naïf et instrumental, mais c'est pas complètement
infondé. Alors, ça dépend de quel lycée, de quel indicateur, sur quels indicateurs on se fonde. Un taux brut de réussite au bac n'a aucun sens. Quand on sélectionne les élèves en seconde... Donc c'est pour ça que le ministère avait aussi mis en place des indicateurs qu'on appelait de valeur ajoutée, pour essayer de tenir compte de l'origine sociale, scolaire des élèves qui sont accueillis. Mais on a la même problématique effectivement à l'école primaire, le bon prof, avec madame machin. Bon. Oui, mais tout ça, ces discours sont souvent fondés sur des croyances. C'est quoi le bon prof? On a tous ça, les écoles de nos enfants, devant la porte, on discute. Quand le bon prof, c'est celui qui donne des devoirs, non.
Ou des punitions.
Voilà, non plus. Et en même temps, le bon prof, c'est pas celui qui donne pas de devoirs. Donc, c'est pas celui qui donne pas de punitions. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et puis, sur ces questions des parents, de c'est quoi un bon prof, c'est aussi marqué sociologiquement, c'est-à-dire que les critères ne sont pas les mêmes pour les parents des milieux les plus favorisés et pour les parents des milieux plus défavorisés. Donc,
quels sont ces critères différents?
Alors, je schématise pour faire simple, mais on va avoir des critères dans les milieux plus populaires, plus souvent attentifs à la personnalité de l'enseignant, au rapport qu'il est capable d'instaurer avec les élèves.
Est-ce qu'il est gentil?
Et avec les parents. Est-ce qu'il ou elle est gentil?
Accessible aussi pour des parents qui peuvent être éloignés de l'école.
Oui. On va le qualifier de psychologue. Donc on est plus sur des aspects relationnels. Sans pour autant gentil, ça ne veut pas dire que les punitions n'ont pas lieu d'être. Généralement, c'est plutôt les milieux populaires qui réclament des punitions de l'ordre. Alors que dans les milieux plus favorisés, on va être sur des questions d'épanouissement personnel. Je parle toujours de l'école primaire. Après, on monte d'un cran quand on arrive au collège où là, l'épanouissement personnel, c'est d'abord la réussite. Tu ramènes d'abord des bonnes notes. Ouais. Voilà, un prof qui donne l'impression qu'on apprend dans sa classe. Donc ça compte aussi évidemment l'école primaire, mais on est beaucoup sur des questions d'épanouissement personnel, des choses comme ça. Mais ça reste très vague et c'est pas ça qui fonde l'efficacité d'un enseignant. Et là où on a de la difficulté, même nous en tant que chercheurs, pour répondre à une demande sociale qui est très forte, c'est quoi un bon prof? Même les profs nous le demandent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On ne peut pas être dans des discours « il n'y a qu'à Faucon ». Faites ceci, faites cela, parce qu'en fait, chaque pratique est toujours en interaction avec une autre. Donc, si on fait ceci à un moment, mais qu'on fait autre chose qui contrecarre dans le même temps, donc ça, c'est très difficile.
Vous, évidemment, surtout après ce que vous venez de dire, vous détestez le côté « donnez-nous les bonnes pratiques », etc. Je pose quand même la question. Ou alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout, sans que ce soit un manuel, mais...
Oui, moi j'ai beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions. D'abord, d'un point de vue aussi scientifique, parce que ce n'est pas parce qu'on a certains travaux qui montrent que c'est la vérité. Voilà, moi j'ai pour habitude de dire que des résultats de recherche valent tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Mais disons que plutôt que de dire on peut faire ceci ou faut pas faire cela, dans mes travaux, moi j'essaye plutôt d'être sur des points de vigilance dont qu'on a évoqué en fait au cours de l'entretien, des points de vigilance sur donc le maintien des exigences, sur développer des stratégies pour maintenir les élèves au travail. Ça c'est très très important. Parce que les effets
pendant le cours, vous voulez dire?
Oui, pendant la classe. Je disais, c'est une vraie compétence des enseignants. Alors, je ne vais pas vous dire, faut faire exactement ceci ou ne pas faire exactement cela. Mais les enseignants développent au fur et à mesure de leurs expériences et puis en formation aussi, des petites astuces, des façons de travailler pour maintenir les élèves dans la tâche.
Ça veut dire, si on revient sur la méthode, vous évoquiez les enquêtes résultats, réussite, etc. Ça veut dire que vous faites aussi de l'observation in situ en classe.
Oui. Alors, je suis ce qu'on appelle une quantitativiste de formation. Donc, j'ai plutôt généralement, au départ, une approche un peu externe. C'est-à-dire que on évalue les élèves, on va les comparer les uns aux autres. Donc, je ne suis pas impliquée dans la construction de dispositifs. Néanmoins, sur la question, par exemple, des effets maîtres, de l'efficacité des pratiques des enseignants, il faut bien aller dans la classe pour regarder ce que font les enseignants. Donc, dans mes travaux, j'articule à la fois des mesures très quantifiées, de mesures d'acquisition, j'aime pas le terme performance, d'acquisition des élèves, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils savent faire, et des observations de classe, des entretiens avec les enseignants également, pour essayer d'objectiver comment les enseignants se comportent avec leurs élèves en difficulté, comparativement à ce qu'ils font avec des élèves pas en difficulté. Donc, j'ai une perspective très comparative entre les enseignants. Et c'est comme ça qu'on arrive à repérer quelques petites façons de faire qui vont distinguer des enseignants avec lesquels des élèves en difficulté progressent plus qu'avec d'autres.
Ça doit être intéressant de temps en temps, entre vos conclusions et la manière de penser des enseignants, de se penser eux-mêmes, il doit y avoir quelques différences ou nuances. Entre...
Vous parlez de la réception de mes travaux. Oui. Ça dépend des enseignants.
Donnez des exemples.
La réception est toujours difficile quand on va parler d'effets négatifs. Elle est toujours plus positive quand on montre que telle façon de faire, c'est chouette, les élèves progressent mieux. Mais c'est le revers d'une même médaille. Quand on parle d'efficacité des enseignants, forcément, on parle aussi d'inefficacité. Alors bon, c'est des termes que je rechigne à utiliser. Pour moi, tous les enseignants sont efficaces. Voilà. Il y en a juste qui sont peut-être un peu plus efficaces que d'autres. Donc, en termes de réception, c'est vrai que c'est quand même extrêmement difficile de s'entendre dire que, vos façons de faire... moi, je ne le fais jamais comme ça. Je ne vais jamais voir un enseignant. Alors, bizarrement, je trouve que tout ce qui concerne l'évaluation des effets des pratiques enseignantes dans la classe, c'est beaucoup plus facile de discuter avec les enseignants de ça que de l'évaluation des dispositifs. Il faudrait réfléchir un peu plus longuement à pourquoi, mais quand on va montrer que le dispositif plus de mètres que de classe, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ne produit pas les effets attendus, que les RASED ne produisent pas les effets attendus, etc., le redoublement, ça pose des difficultés, mais plus peut-être en termes de compréhension. Une fois qu'on a décortiqué les processus qui expliquent, ça va mieux. Alors que essayer de discuter avec les enseignants de leur manière de faire, bizarrement, je trouve que c'est plus facile. En fait, les enseignants doutent très souvent. Ils sont tout le temps en train de se poser des questions. Et ils ont souvent peur de pas bien faire. Donc, en termes de réception, je n'ai pas tant de difficultés de ça avec les enseignants. C'est plus les dispositifs qui sont compliqués.
Christian, dernière question.
Oui, j'avais une dernière question peut-être un peu plus générale. On voit beaucoup de chercheurs qui se succèdent à ce micro, qui évoquent des sujets très, très, très variables. Une des singularités des sciences de l'éducation, c'est que vous travaillez sur des sujets qui passionnent beaucoup de gens, et beaucoup de gens très dotés en capital culturel, très diplômés, à commencer par les instituteurs et institutrices dont on parlait il y a deux minutes. Vos sujets intéressent aussi beaucoup l'État-providence. Hein. Voilà, il y a des statistiques d'État qui sont une manne pour, j'imagine, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les chercheurs que vous êtes. Il y a une pression parentale très forte sur l'école. Bref, ça passionne tout le monde, sauf les élèves eux-mêmes, fort heureusement. Alors, quel statut, enfin, comment vous vivez ça, le fait d'être au cœur des attentions, d'être écouté, peut-être plus lu, peut-être plus attendu que beaucoup de chercheurs qui travaillent un peu en apesanteur.
Alors, effectivement, il y a une pression sociale.
Et du débat politique, j'ai oublié de le dire, mais un débat politique sur les méthodes d'apprentissage. Voilà.
Alors, moi, je suis plus sensible à la question, à la pression sociale qu'à la pression politique, en fait. D'abord parce que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut rester prudent, voilà. Et c'est pas parce que tel chercheur avance ceci cela que parce qu'il est chercheur, bah il a raison. On a énormément de débats qui sont très compliqués en ce moment. En éducation, alors ça a été sur les méthodes de lecture, hein, d'une façon un peu caricaturale, la méthode globale et la méthode syllabique. Bon, ce sont des débats peut-être un peu désuets, mais ça persiste en ce moment sur la réforme actuelle. Bref, moi je suis assez prudente. Je travaille aussi sur un sujet qui me protège. Bizarrement, parce que je ne suis pas vraiment dans les méthodes d'apprentissage de la lecture, par exemple, où là, on va confronter des didacticiens, des cognitivistes. Moi, je suis plutôt, mes objets sont plutôt sur les façons de faire au quotidien. Et là, comme on n'a pas beaucoup de théorie, on est assez tranquille. Bon. Donc, du point de vue politique,
C'est moins chaud.
Voilà, je crois qu'il y a aussi un accord, et du point de vue social et du point de vue politique, sur cette idée de oui, c'est dans la classe qu'il faut faire les choses. Bon, c'est plus compliqué, comme on en parlait tout à l'heure, du point de vue social, parce que tout le monde a son petit avis. Tout le monde est passé à l'école. Et ce qui est bien pour les uns n'est pas forcément bien pour les autres. Et les élèves ont leur avis aussi. Ça, c'est très drôle de leur poser la question. Alors, c'est quoi un bon prof ? D'ailleurs, je le fais même avec mes étudiants à l'université. Et on a des réponses qui vont un petit peu dans tous les sens et qui, généralement, sont très éloignées des dimensions dont on a parlé aujourd'hui. La question du niveau de confiance dans les capacités de ses élèves, des stratégies pédagogiques pour maintenir les élèves au travail. Non, les bons profs, voilà, c'est parfois presque caricatural. C'est relationnel, c'est quelqu'un qui donne des devoirs, qui maintient l'ordre dans sa classe. Voilà, s'il n'y a pas d'ordre, on n'est pas un bon prof, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. On peut avoir du bruit dans une classe et être avec un très bon enseignant. Bah oui, ça fuse, ça partage, ça discute. Bon. Donc, les discussions sont parfois difficiles parce que chacun se sent légitime pour dire ce qu'est un bon enseignant. Bon, moi j'essaye de rester en retrait aussi dans mon environnement social proche parce que ça finit en des débats qui sont à la fin insolubles. Et puis nous les chercheurs, on regarde par des petits bouts de lunettes, donc c'est jamais suffisant en fait. Donc c'est pour ça, il faut attendre, la science est cumulative et au bout d'un moment on arrive à poser des bilans. Mais c'est vraiment une question compliquée parce qu'elle est sensible. Voilà, on voudrait tellement ne pas avoir ces 15% là du début qui savent pas lire, qui éprouvent des difficultés. C'est très culpabilisant comme sujet aussi, donc les acteurs ont tendance à se protéger, les parents se protègent en renvoyant la faute à l'enseignant, l'enseignant se protège en renvoyant la faute aux parents ou à l'absence de formation. Bon. Donc voilà, on nage, on essaye de surnager et quand vous avez un chercheur qui vous dit oui mais moi je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, là aussi ça, on est déçu forcément. Bon, donc on tourne un petit peu en rond mais voilà, on progresse petit à petit.
Céline Piquet, merci. Vous étiez notre première invitée de cette nouvelle saison de Chercheurs en Ville. Merci à Christian Lebar et à notre réalisatrice Lucie Louapre. À bientôt.